Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui sur RMC vous attend tous les samedis soirs après l'after et qui est proposée par le diocèse de Monaco. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir un héros déjà et un écrivain, un explorateur, un réalisateur. Bref, il a beaucoup de casquettes. Il s'agit de Henri d'Anselme. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Qui est connu par le grand public parce qu'il a été protagoniste malgré lui d'un sauvetage important de jeunes enfants à Annecy quand un terroriste essayait de les tuer il y a quelques années. Voilà. Vous vous êtes trouvé à Annecy aussi parce que vous étiez en train de faire un tour de France de cathédrale,
oui.
Qui après a donné naissance, disons, a porté à la réalisation d'une série qui s'appelait Le Chant des cathédrales, qui a été diffusée sur C8. Et maintenant, un livre qui est en réalité déjà à sa réédition, dont le titre est Sur les chemins des cathédrales, paru chez Fayard. J'ai tout dit.
Voilà, c'est ça. Et la réédition est en format deux poches chez Litos.
Comme ça.
Et en fait, c'est vraiment le témoignage de l'intérieur de ce que j'ai vécu, à la fois sur mon chemin des cathédrales, à la découverte de notre patrimoine naturel, de notre patrimoine construit, de notre patrimoine religieux, et surtout à la découverte des Français, puisque je l'ai fait en mendicité, ce chemin-là, j'étais accueilli chez les gens.
Oui, parce que vous étiez vraiment un pèlerin, c'est-à-dire...
J'étais un pèlerin. Anonyme.
Votre sac à dos.
Exactement, mon sac à dos. J'avais lancé un petit compte Instagram qui, à l'époque, avait un peu buzzé quand même. J'avais 12 000 abonnés. Mais du jour au lendemain, le 8 juin 2023, avec cette fameuse attaque au couteau, je me suis retrouvé à la télé nationale et internationale d'un seul coup sans rien demander. Et donc, ça a pris des proportions gigantesques. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement absurde ce qui est en train de m'arriver qu'il va falloir que j'en donne un sens. Et ce sens, je l'ai donné justement en défendant un message. Mmh. Et ce que j'essaye de dire, je me souviens d'ailleurs très bien, c'était une des premières questions que tous les journalistes me posaient, c'était pourquoi vous avez réagi ? L'explication, c'est parce que dans ce genre de situation, il faut en sortir par le haut. Et en fait, j'ai tellement été nourri de beauté par ce que j'ai vu qu'en fait, le mal m'est devenu insupportable. Et j'ai dit, si je fais un tour de France des cathédrales, c'est pas pour rien. Il faut relever la tête, fixer les flèches des cathédrales et s'inspirer de ce qu'il y a de plus beau dans notre pays. Et donc aujourd'hui, c'est le message que je défends.
Et donc, vous portez encore haute les flèches des cathédrales
j'essaye, en tout cas.
En France, de France et d'Navarre, mais aussi vous le portez haute à l'étranger.
Oui.
Parce que effectivement, vous avez fait en tout cas un pari, j'imagine, parce que quand vous étiez petit, j'imagine, vous n'êtes pas très vieux.
J'ai 27 ans, oui.
J'aime bien les cathédrales, je voudrais les...
Mais c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est un rêve d'enfance. Je devais être en quatrième ou en cinquième, donc au collège, et je me suis fait cette espèce de promesse à moi-même que j'ai tout de suite dit d'ailleurs à mes parents qui m'ont un peu rionné d'ailleurs. Je leur ai dit, papa, maman, un jour je ferai le tour de France des cathédrales à cheval. Et en fait, pour moi, c'était juste un prétexte pour vivre une aventure.
Ouais.
Je voulais vivre une aventure et je savais que je le ferais. Et c'est devenu, donc en fait, c'est resté un petit peu comme une idée folle. Et puis après, pendant mes études à Paris, donc bien plus tard, en 2019, il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Oui. Et là, c'est vraiment le soir. Le déclic, exactement. Où je me suis dit, en fait, c'est plus seulement une idée folle, ça devient un projet.
Oui.
Voilà.
Et le Covid ne vous a pas bloqué pratiquement ?
Non.
Il a retardé peut-être un petit peu.
De toute façon, j'étais encore pendant mes études pendant le Covid. J'avais encore mon master à finir et je me suis dit, je partirai quand je devrai plus rien, entre guillemets, à mes parents, c'est-à-dire quand j'aurai validé mon bac plus 5 pour être tranquille.
Et par contre, vous n'êtes pas parti à cheval. Voilà.
Non, par contre, non, j'aurais bien aimé.
Même pas certains morceaux, vous ne les avez pas fait à cheval.
Même pas. Ça reste toujours un rêve et un projet, ça, vous inquiétez pas. C'est...
Alors, une chose très simple, une question très simple, parce que dans cette émission, vous le savez, nous essayons aussi d'expliquer certains mots que les chrétiens, les catholiques en particulier, utilisent, mais que tout le monde ne connaît pas. Déjà, qu'est-ce qu'une cathédrale ?
Une cathédrale, c'est la plus grande église du diocèse. Le diocèse, c'est l'équivalent du département, mais pour l'église. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un évêque par diocèse, et la cathédrale, c'est l'église dans laquelle il y a le trône de l'évêque, qui représente son pouvoir spirituel et autrefois aussi son pouvoir temporel. Et ce trône s'appelle la cathèdre, cathèdre, cathédrale.
Voilà, cathédra en italien,
exactement.
En latin.
Oui, oui.
Et donc, en fait, c'est l'église de l'évêque.
C'est l'église de l'évêque. Du coup, traditionnellement, c'est la plus grande et la plus belle église.
Et c'est d'ailleurs aussi la mère, l'église mère de toutes les églises
du diocèse.
D'un diocèse. Oui. Donc on peut dire effectivement, comme vous l'avez dit, qu'en France, un diocèse équivaut grosso modo au territoire d'un département. Ailleurs, c'est pas le cas. Il y a des diocèses énormes. Par exemple, au Danemark, c'est un seul diocèse, c'est tout le Danemark, plus le Groenland, plus les îles Féroé. Mais voilà, là aussi, il y a une cathédrale. Il y a seulement une cathédrale d'ailleurs par chaque diocèse.
Alors en France, c'est un petit peu particulier parce qu'en France, on a quand même une longue une longue histoire riche, compliquée, et il y a un petit grand bonhomme qui est passé par là, qui s'appelle Napoléon.
Ah.
Et Napoléon a voulu faire coller la carte des diocèses et des départements. Autrefois, il y avait beaucoup plus de diocèses qu'aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup de diocèses qui se sont regroupés. Donc aujourd'hui, alors même qu'on a 90 diocèses, donc théoriquement, on devrait avoir 90 cathédrales, en réalité, on en a deux fois plus, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes cathédrales et de co-cathédrales.
Co-cathédrales, exactement, oui. Parce qu'on peut avoir... Et puis, il y a le diocèse de Monaco que je...
Il y a aussi le diocèse de Monaco, qui que j'ai visité, France, exactement, avec une magnifique visité, cathédrale.
Qui donne sur la mer, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait ce tour, et vous avez découvert quelque chose, parce que vous êtes catholique de votre naissance. Est-ce que vous avez quand même découvert quelque chose que vous ne attendiez pas ?
Oui, alors moi je suis catholique depuis l'enfance, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit, comme on dit. Mais en fait, j'ai eu cette chance-là d'avoir réussi assez tôt, donc à la fin de mon adolescence, vers 16-17 ans, à réellement me réapproprier la foi. Et donc, je n'ai pas eu de crise de la foi comme beaucoup peuvent avoir, ou de rébellion particulière. Mais en fait, ce que j'ai découvert pendant mon tour de France des cathédrales, c'est plutôt la réalité du terrain. En fait, quand on sort de ses études, on est encore un petit peu idéaliste. On se fait beaucoup d'idées sur la réalité du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes aiment voyager. C'est parce qu'on a envie de se confronter au monde pour, déniaiser, entre guillemets. Moi, j'ai déniaisé sur la réalité de ce qu'est la France et sur la réalité de ce qu'est l'Église en France. Et donc, j'ai découvert des énormes fractures entre les villes et les campagnes. J'ai découvert des fractures de mentalité entre les générations aussi. Mais malgré tout ça, j'ai quand même senti une église dynamique, belle, qui se renouvelle et en fait qui attire énormément aujourd'hui.
Et les cathédrales aussi jouent un rôle.
Exactement. Et en France, on a ce trésor immense qu'en fait c'est facile de entre guillemets de parler de sa foi naturellement parce qu'il y a tellement de beauté en France qui en parle naturellement. Je n'ai aucun mérite. Je montre juste la beauté des églises et des cathédrales, aujourd'hui du patrimoine bien plus largement parce que c'est mon métier. Mais quand je me suis vraiment lancé sur cette niche du patrimoine religieux, il suffit juste de mettre la beauté sous les yeux des gens et les gens sont touchés. Point barre.
Qui dit beauté pense aussi au patrimoine. Il y a quelques jours, mais aussi il y a quelques années, Stéphane Bern avait un peu haussé le ton pour dire que le patrimoine déjà n'est pas tout concentré, patrimoine français n'est pas tout concentré à Paris et qu'il y a vraiment des perles à droite à gauche.
Il a raison. Il a complètement raison. Alors moi, je suis parisien de circonstance depuis plusieurs années, mais je suis vendéen d'origine. Et c'est vrai qu'en fait, on a un patrimoine extraordinaire à travers toute la France. En fait, je vais juste reprendre l'exemple des cathédrales, puisque pour le coup, c'est vraiment ma spécialité. Il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, une émotion internationale autour de Notre-Dame de Paris, 800 millions qui tombent un peu du ciel pour la restaurer. Sauf que Notre-Dame de Paris n'est même pas ni la plus grande ni la plus belle cathédrale en France. Il y en a des bien plus grandes, des bien plus belles, des bien plus symboliques, même j'oserais dire, entre Amiens, Rouen, Reims, Chartres, Orléans. Ces cathédrales ne bénéficient pas du même régime de favoritisme entre guillemets. Donc Stéphane Bern a raison et d'ailleurs j'en discute avec lui puisqu'on se connaît un petit peu et il a raison de se battre sur ça. Et c'est vrai que l'objectif c'est de montrer la réalité du patrimoine en France qui est riche, aussi riche, voire plus riche partout en dehors de Paris.
Et dans votre périple, vous avez été surpris, vous nous l'avez dit, par la vitalité de cette église, aussi l'attractivité des cathédrales. Et du point de vue spirituel, est-ce que vous avez vu quelque chose que, il y a l'attrait, mais après, il y a, des personnes qui sont particulièrement attachées à telle ou telle cathédrale parce qu'il y a une statue, par exemple, qui représente, qui parle à une, parce que ça rappelle une partie de leur vie, une partie, peut-être une difficulté de leur vie.
Ce qui est très drôle, c'est que... D'ailleurs, je dirais que les Français et les Italiens sont un peu similaires sur ça. On est très chauvin.
Je m'en suis rendu compte.
On est très chauvin.
C'est vrai.
Et donc, ce qui est très drôle, c'est que... Comment dire ça ? Tout le monde est amoureux de sa cathédrale, de sa région, de son coin. Et tout le monde va défendre bec et ongles, peut-être même jusqu'à l'absurde, la richesse de son patrimoine régional, en fait. Et la cathédrale, souvent, en est le symbole.
Oui.
Et donc, chacun défend un petit peu son truc. Donc oui, c'est, y a une fierté immense, mais il y a de quoi être fier.
Mm.
Quand on compare Notre-Dame de Strasbourg Notre-Dame de Strasbourg à Sainte-Cécile d'Albi, deux cathédrales radicalement différentes, une diagonale l'une de l'autre de la France. Il y en a une, c'est la splendeur du gothique flamboyant en grève rose des Vosges, etc., avec un foisonnement d'excentricité médiévale. Et de l'autre, on a un petit peu l'austérité occitane face au Qatar, qui s'impose presque comme une forteresse militaire. Et puis, quand on rentre à l'intérieur, il y a toute la finesse et la richesse de l'art italien.
Technicolor.
Exactement. Et donc, en fait, on pourrait presque se dire, c'est pas possible, c'est pas le même pays.
Ouais.
Mais en fait, si.
Ouais.
Et encore, ça, c'est que deux exemples, mais chaque cathédrale est unique en France.
Et vous avez visité aussi des cathédrales modernes, ou en tout cas plus récentes.
Oui, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la cathédrale de Lille. La cathédrale de Lille, qui est une cathédrale qui a été commencée au 19e siècle, même pas à l'initiative de l'église, à l'initiative des habitants de la ville. Les habitants de la ville, portés par les riches familles industrielles du nord de la France, au moment de la révolution industrielle, qui ont décidé de mettre énormément d'argent pour construire ce qui devait être à l'époque une église ou une basilique, et qui, par la force des choses, est devenue une cathédrale. En fait, c'était devenu tellement grand et le projet était tellement ambitieux qu'en fait, à la fin, ils sont directement partis voir le pape et ils ont dit, écoutez, on a déjà construit la cathédrale, maintenant donnez-nous le titre, quoi. Et en fait, elle a été achevée en 1998. Et même si, à mon sens, il faudrait l'achever selon ses plans initiaux, je trouve qu'elle a un charme fou, cette cathédrale.
Et est-ce qu'il y a une cathédrale préférée?
Oui.
Henri d'Anselme.
Oui,
je ne veux pas créer des tensions.
J'en ai plusieurs parce que c'est tellement difficile de choisir. J'en ai plusieurs. J'ai Albi, Strasbourg et Bourges et Chartres. Mais je pense que aujourd'hui, puisqu'il faut bien choisir, aujourd'hui, je dirais Saint-Étienne de Bourges.
Saint-Étienne de Bourges, c'est une très belle cathédrale, effectivement. Allez la visiter. D'ailleurs, vous suggérez si quelqu'un décide, par exemple, cet été, de faire un tour d'une région ou de l'autre de France, parce que d'ailleurs, si le carburant va augmenter très fortement, ça sert intéressant de rester chez nous. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour dire, bon, vous commencez par là, c'est sûr, et puis vous faites ça, ça et ça.
En fait, je dirais pas ça. Je dirais pas commencer par un endroit, je dirais intéressez-vous à ce qu'il y a autour de vous.
Mmh.
Et en revanche, je vais vous donner un conseil sur le moyen de le faire. Et c'est là où moi, mon conseil le plus absolu, c'est de dire allez-y à pied, allez-y avec un sac à dos et sonnez chez les gens pour dormir chez eux. Vous allez voir, présentez-vous comme un pèlerin ou comme
quelqu'un
un vagabond.
Quelqu'un qui a écouté cette émission.
mais en fait, vous allez voir, déjà les Français sont extrêmement généreux,
ouais.
Ils savent accueillir chez eux. Et c'est là où, en fait, tout le voyage prend son sens. C'est dans la rencontre avec les gens.
Et dans l'humilité, en fait, dans la frugalité aussi.
Exactement. Et donc, alors peut-être n'allez pas jusqu'à le faire en mendicité comme moi je l'ai fait, ça, chacun le fait, voilà. Mais en tout cas, essayez de vraiment partir à pied sur le long cours, au moins 2 semaines, à la rencontre des gens. C'est la meilleure façon de voyager tout court.
Oui, c'est quelque chose de très simple, très, comment dire, improvisé, mais finalement aussi structuré, parce que voilà, vous avez un peu, on s'est fait une idée d'un parcours et puis on y va. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est aussi une façon pour redécouvrir aussi un parcours de foi, par définition lent, parce qu'on marche à pied ou à la limite un vélo, mais on prend le TGV.
En fait, je dirais la démarche d'itinérance physique, donc elle peut se faire à vélo ou à pied, à quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis l'origine de l'humanité, les grandes démarches physiques au long cours ont été associées à quelque chose de spirituel. Les grands pèlerinages, ça existe depuis toujours, les grands déplacements. C'est parce qu'en fait, la marche au long cours force le corps à revenir à l'essentiel. Physiologiquement, il y a des trucs qui se passent. Spirituellement, il y a des trucs qui se passent. Intellectuellement, il y a des trucs qui se passent. Et moi, j'ai fait cette expérience pendant mes 9 mois d'aventure à pied à travers la France. En fait, il m'a réellement fallu deux semaines pour que le cerveau s'apaise complètement et qu'en fait, mon corps s'habitue à vivre au rythme de la nature. C'est-à-dire, en fait, naturellement, j'ai commencé à me réveiller avec le soleil et je me suis endormi avec le soleil. Et en fait, on se rend compte que toutes les tracas du quotidien, ils mettent un peu de temps à s'effacer. Et au bout d'un moment, naturellement, les yeux vont aller se placer sur un horizon que les autres gens n'ont pas l'habitude de voir, de regarder. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire.
Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour tout ce témoignage que d'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs, on peut les retrouver dans le livre Sur les chemins des cathédrales qui est paru chez Fayard et en réédition de poche chez Lithos Documents. Merci beaucoup, Henri et d'Anselme.
Merci Mathieu pour ton invitation.
Et on vous attend encore ici pour un autre voyage, un autre tour.
Avec plaisir, et ça va arriver très vite.
On pourra peut-être aussi vous croiser sur les chemins de France et de Navarre.
Là, je reparle.
Parfait. Ou de Monaco. Justement, merci beaucoup de nous avoir écouté aussi ce soir. Vous retrouverez cet épisode, comme tous les autres, sur le site et l'application de RMC, mais aussi sur le compte, les comptes sur les réseaux sociaux du diocèse de Monaco. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, un bon pèlerinage si vous partez en utilisant les conseils d'Henri d'Anselme, et que Dieu vous bénisse. Ciao.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.